Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 15 septembre dernier, la France s'est mise à la télémédecine et les téléconsultations sont prises en charge par l'assurance maladie au même titre que les consultations classiques en face à face. L'objectif de ce recours aux technologies de l'information pour soigner, ce n'est pas de remplacer le lien direct et physique entre le médecin et son patient, mais plutôt de compléter l'offre de soins dans des situations particulières. Les autorités de santé y voient aussi des solutions, des pistes pour répondre à de grands défis actuels, comme le manque de médecins dans certains territoires ou le suivi de certaines maladies chroniques. Possibilité offerte donc pour ces consultations vidéo remboursées avec son médecin traitant et parallèlement, on a vu se multiplier les offres de plateformes ou d'assureurs privés qui, moyennant un forfait, proposent de mettre en relation un réseau de praticiens à des patients adhérents. Alors comment le numérique modifie-t-il le rapport soignant-soigné? Cette télémédecine peut-elle résoudre certains problèmes actuels du système de santé français? Et au-delà de ce cas français, quels avantages ce système comporte-t-il dans des régions où l'accès aux soins est défaillant? Si vous avez des questions à poser au sujet de cette télémédecine, notre numéro, le 33 84 22 75 75. Télémédecine, est-ce que la France va adhérer à cette autre façon de soigner et de se faire soigner? Quel accueil d'ailleurs depuis ce coup d'envoi du remboursement en septembre dernier. Avec nous en studio pour débattre, docteur Jacques Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Docteur Claude Bronner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union généraliste, vice-président de la Fédération des médecins de France. Et également avec nous, docteur Alexandre Maisonneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur, directeur médical de CARE, plateforme de télémédecine. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Et puis, nous retrouverons en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Franck Mansour Adeoti, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, directeur régional du réseau international pour l'amélioration de la qualité et sécurité des soins de la e-santé en Afrique.
Priorité santé sur RFI.
Alors, toute une série d'activités différentes qui sont rassemblées autour de ce terme de télémédecine, même si aujourd'hui nous allons évoquer surtout les consultations par écran interposé à la lumière de l'actualité, depuis que la France a donc décidé, c'était en septembre, il y a quelques mois seulement, de permettre le remboursement par l'assurance maladie. Donc, il est trop tôt pour établir un premier bilan, plutôt faire un état des lieux. Comment ça marche? Comment ça se passe? Docteur Jacques Lucas, première chose, tous ces services médicaux, donc plutôt différents, on parle de la télémédecine entre le médecin et le patient, mais il peut aussi y avoir des services de conseil entre médecins quand il y a une spécialité qui est en cause.
Alors effectivement, la téléconsultation consiste à mettre en relation un patient et un médecin, comme dans la consultation en présence, mais elle est intermédiée par la vidéo transmission. Il peut y avoir ce que l'on appelle, d'un terme un peu complexe, qui est la télé-expertise, c'est-à-dire que deux médecins vont se concerter à propos d'un patient. Un bon exemple, c'est la téléradiologie, par exemple, où un cliché, une radio qui est prise dans un endroit, va être envoyée dans un autre endroit pour être interprétée. C'est ce qu'on appelle la télé-expertise.
C'est trivialement, on dit, on demande un avis.
On demande un avis, mais c'est une consultation. C'est pas simplement un avis, c'est-à-dire que la responsabilité du médecin qui va être à distance pour conseiller son confrère engage bien évidemment sa responsabilité, puisque ils vont échanger à propos de ce patient. Il y a un troisième acte qui est la télésurveillance, c'est-à-dire qu'une personne qui est atteinte d'une maladie chronique, d'une maladie au long cours, peut avoir des dispositifs médicaux numériques à sa disposition. ces dispositifs médicaux vont enregistrer un certain nombre de paramètres.
Par exemple, pour un hypertendu,
la tension artérielle, le rythme cardiaque peut enregistrer un certain nombre de facteurs. Ça, c'est pas une vue de l'esprit. Ça existe déjà en matière de cardiologie, où les patients qui sont porteurs d'un pacemaker, d'une pile, comme on dit familièrement, ou d'un défibrillateur, lorsque la situation est plus grave, peuvent être surveillés, c'est de la télésurveillance, par ce dispositif. Et puis il y a deux autres actes qui sont un peu plus... Un est un peu confidentiel et l'autre est très généralisé en fait, on l'oublie trop souvent. Celui qui est confidentiel, c'est la téléassistance. C'est-à-dire qu'un médecin chirurgien, par exemple, va assister un chirurgien qui se trouve à distance pour pratiquer un acte. C'est Jacques Maresco, d'ailleurs, qui est un professeur alsacien qui avait débuté dans cette technique en assistant un chirurgien qui était à Strasbourg, si ma mémoire est bonne, alors que lui était à New York. Et puis enfin, le cinquième acte que l'on oublie, mais qui est fondamental, c'est la régulation des appels. Tout le monde connaît le centre 15. Eh ben, le centre 15, quand on appelle au centre 15, c'est bien de la télémédecine. Ça se passe par téléphone. Il n'y a pas de vidéo transmission. Et donc, on peut améliorer les choses avec la vidéo quand on fait de la téléconsultation. Mais les appels au centre 15, c'est une forme déjà ancienne de la télémédecine. Et personne n'y trouve à redire. Ni les usagers, ni les médecins. Comme quoi, il faut s'engager dans la voie de la télémédecine en mettant en parallèle les avantages et les risques. Dans toute pratique médicale, il y a des avantages et il y a des risques. Et
c'est justement ce dont on va parler. Alors, du côté des faits, la nouveauté, c'est depuis septembre, ces consultations. Docteur Claude Brunner, est-ce qu'on a des chiffres sur ce qu'on pourrait appeler l'accueil réservé à cette nouvelle façon de soigner?
Alors, on a très peu de chiffres parce que l'assurance maladie les garde précieusement, mais en fait c'est parce qu'ils ne sont pas très importants. Je ne peux donner de chiffres de consultations, celles qui ont été mises en place, que pour septembre et octobre, et on est à moins de 50 actes France entière pour moins de 25 médecins.
Alors pourquoi un accueil pour l'instant si confidentiel? Parce que c'est un défaut d'information?
Ah, pas du tout. C'est tout simplement parce que c'est une révolution dans la manière de travailler. Et donc, il faut s'y mettre.
Dans l'adaptation.
En plus, c'est plutôt fait pour le médecin traitant qui, en général, a du travail. Donc, se prendre le temps de s'organiser pour commencer à y aller, pour découvrir comment il faut faire, est quelque chose qui est relativement complexe. Et donc, les médecins vont s'y mettre, mais clairement, ils y vont tout doucement. J'ai fait pas mal de formations. Ils sont toujours tous complètement dubitatifs au départ, en disant « qu'est-ce que c'est encore que ce machin ?» là, tout en disant il va falloir y aller. Puis à la fin, ils disent oui, bon, ok, je m'y mettrai. Mais après, il faut s'y mettre.
Il faut s'y mettre. Est-ce qu'il faut acquérir beaucoup d'équipements? Apparemment, c'est plutôt simple. Peut-être une question aussi simplement de technique avec ce fameux haut débit, docteur Claude Brunner, possibilité justement d'avoir une transmission d'informations dans des temps assez rapides.
Globalement, c'est toujours l'argument qu'on nous oppose. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de débit. Pour en avoir fait pas mal, avoir fait des réunions un peu partout, je n'ai jamais été bloqué complètement par le manque de débit. Alors par contre, il est certain que les conditions techniques font que c'est plus ou moins sympa, plus ou moins fluide, et la vraie consultation, il faut avoir du bon débit. Mais globalement, à partir du moment où on arrive à faire une connexion avec un smartphone, on arrive à faire une téléconsultation.
Alors, un smartphone, un écran, c'est plutôt simple et à la portée de tous. Docteur Jacques Lucas, dans certains cas, l'équipement peut être plus conséquent. Notamment, il existe des sortes de cabines, mais pour l'instant, c'est encore assez confidentiel. Là encore, ce type d'équipement plus complet.
Alors, il est certain que la cabine, c'est pas vraiment un outil qui puisse rentrer dans le parcours de soins, puisque dans le parcours de soins que j'ai évoqué tout à l'heure, un patient et un médecin qui se connaissent, ça doit se réaliser de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la technologie elle-même mise en œuvre vienne perturber la relation humaine entre le médecin et le patient. Car il faut combattre une idée reçue qui consisterait à dire que la technologie déshumanise la relation entre le médecin et le patient.
Pourtant, c'est la crainte exprimée par l'essentiel des personnes qui sont un petit peu sur la réserve.
Oui, mais c'est irraisonné. C'est-à-dire que qui va dire que quand on a quelqu'un de sa famille, de son entourage, ou quelqu'un qu'on aime beaucoup, ou pas d'ailleurs, qui est à distance, et qu'on prend contact avec cette personne par Skype, qui va dire que ça déshumanise la relation entre ces deux personnes? Au contraire, ça leur permet de se voir, d'échanger, alors qu'elles sont très éloignées. Bien évidemment, dans la relation de soins entre un médecin et le patient, le patient a toujours un certain degré de vulnérabilité. Et si on lui dit, voilà, vous allez rentrer dans une cabine, vous allez vous connecter tout un tas de... C'est un peu retour vers le futur, en quelque sorte. Un tas d'appareils que votre médecin va voir, c'est... Là, du coup, la société n'est certainement pas prête à ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas rendre des services, notamment en matière de prévention ou de surveillance, de grandes populations, je pense en particulier aux étudiants, qui n'ont pas toujours accès à la médecine universitaire. On peut imaginer, bien évidemment, que des cabines, comme vous le dites, puissent permettre de recueillir un certain nombre de paramètres. Mais c'est pas de cela dont nous parlons. Je parle aussi sous le contrôle de mon confrère Claude Brunner sur ce point-là, ça n'est pas de cela dont nous parlons actuellement. C'est dans une relation de soins. Mais je précise une chose, ça n'est pas réservé aux médecins généralistes. Si vous avez une affection cardiaque, je parle souvent de cardiologie parce que c'est ma spécialité, mais quelle que soit la pathologie, vous pouvez très bien, dans le suivi de cette pathologie, avoir une téléconsultation avec votre cardiologue qui va vous dire par exemple qu'il est nécessaire d'augmenter la dose de certains médicaments, par exemple si vous avez une insuffisance cardiaque. Et ça évite des déplacements de personnes qui peuvent être parfois très éloignées, qui peuvent être un peu fragiles, les insuffisants cardiaques qui ont des difficultés à respirer, qui peuvent rester dans leur, qui peuvent rester chez eux et avoir la consultation de leur cardiologue à distance.
Alors, acte médical dans le cadre du parcours de soins coordonnés, et il y a aussi des acteurs privés qui se sont positionnés sur ce secteur, à l'image de la société au sein de laquelle vous êtes directeur médical, docteur Alexandre Maisonneuve, Care. Comment décrire simplement vos activités pour les personnes qui ne connaissent pas ce type d'entreprise ?
Bonjour. Notre activité de téléconsultation est très simple finalement, comme l'a rappelé le docteur Jacques Lucas, c'est-à-dire qu'à l'instar d'une consultation présentielle où vous avez un patient, un médecin et un bureau finalement entre les deux dans un cabinet médical, pour une téléconsultation, vous allez avoir un patient, un médecin et entre les deux un interface numérique, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, le plus simple étant de faire avec le smartphone et non pas avec une cabine.
Alors on va dire, si ça existe dans le public entre le médecin traitant et le patient, à quoi servent ces plateformes privées qui offrent justement offrent cette possibilité d'entrer en contact entre des praticiens et des patients?
Alors, sur le terme, en fait, le terme plateforme n'est pas forcément adapté à notre activité, en tout cas en ce qui concerne Care. Nous offrons une solution technologique et une solution de service à la fois pour les médecins et également pour les patients. Le choix que nous avons fait en 2016, quand nous avons commencé à développer notre service, c'était justement de se dire comment offrir une offre complémentaire, comme vous l'avez dit dans votre introduction, à un parcours de soins, finalement, qui concerne des médecins et des patients qui, par moment, vont se voir en présentiel et par moment, vont se voir en téléconsultation. Encore reste-t-il à construire des solutions de téléconsultation qui soient faciles d'usage, comme ça a été rappelé également, à la fois pour les patients et pour les médecins, et qui apportent satisfaction. Ce sont nos deux chevaux de bataille, je dirais, c'est la facilité d'usage et la satisfaction à la fois des patients et des médecins.
Ça veut dire que les médecins, par exemple, réservent un créneau sur leur emploi du temps ?
C'est exactement cela, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité en plus d'une activité de cabinet, c'est pas quelque chose qui va se faire entre deux portes ou pendant une consultation présentielle. C'est d'ailleurs dans les échanges que l'on a avec les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, c'est un élément important de dire il faut effectivement que ce soit une activité dédiée, que ce soit sur des créneaux réservés pour vous éviter de vivre ce que vous vivez actuellement au quotidien avec votre téléphone, c'est-à-dire d'être dérangé pendant une consultation ou de donner un avis entre deux portes qui n'est ni traçable, qui est fait finalement un petit peu à la va-vite, qui n'est pas forcément qualitatif pour le patient et qui accessoirement pour le médecin n'est pas facturable.
Une question très simple, docteur Alexandre Maisonneuve. Est-ce que ces consultations sont entièrement de la poche du patient ou est-ce qu'il y a une part de remboursé?
Alors, L'objectif, il faut bien comprendre que les choses ont grandement changé le 15 septembre. Nous, nous avons commencé en 2016, donc nous étions hors parcours de soins à l'époque. Depuis le 15 septembre 2018, finalement, la réglementation nous a rattrapés. Nous avons été rattrapés par le calendrier réglementaire à ce moment-là. L'idée étant bien de proposer au maximum aux patients un remboursement dans le cadre du parcours de soins. Néanmoins, il faut bien savoir qu'on a, le chiffre officiel est de 12% de la population qui n'a pas de médecin traitant, c'est-à-dire entre 8 et 9 millions de patients qui n'ont pas de médecin traitant. On a un certain nombre de patients qui n'ont jamais accès à un spécialiste. Donc, dans les règles actuelles de la téléconsultation, effectivement, tout ne peut pas être pris dans le cadre du parcours de soins. Mais probablement que les choses vont évoluer, que ce sera de plus en plus le cas.
Oui, mais on peut quand même se poser la question, pourquoi aller vers vous, hein, je suis concrète, si c'est payant, alors qu'on peut avoir des services de santé de haute qualité remboursés.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le patient, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de plus qu'une consultation présentielle. Le patient va prendre rendez-vous, va s'inscrire, c'est gratuit sur CARE. Il va prendre rendez-vous en téléconsultation, c'est gratuit. Il ne payera que la téléconsultation exactement de la même façon qu'il paye la consultation cabinet. Et d'ailleurs, la téléconsultation est facturée le même prix qu'une consultation. Et il sera remboursé de la même façon. Donc le patient, pour lui, c'est totalement neutre. La seule personne finalement qui paye le service, c'est le professionnel de santé, en l'occurrence le médecin, puisqu'il utilise une solution innovante, une solution numérique qui va lui permettre de facturer des actes médicaux. Donc l'abonnement, c'est le médecin qui le paye. Je fais juste un petit aparté pour vous dire qu'effectivement, le fonctionnement que nous avions avant le 15 septembre est dorénavant terminé.
C'est-à-dire ?
À l'époque, effectivement, nous avions un fonctionnement hors parcours de soins où les patients payaient un abonnement. C'est terminé.
Finalement, on va dire que le service public vous a rendu service, docteur Maisonneuve ?
Le service public nous rend service de la même façon que nous pouvons éventuellement rendre service au service public. Je m'explique. Effectivement, c'était une bonne nouvelle pour nous, l'intégration de la téléconsultation dans le parcours de soins et la possibilité de remboursement. Ensuite, reste à voir si c'est 70% ou 30%. Mais il faut bien comprendre que, si on prend un exemple simple, je ne fais pas cette fausse promesse qui consiste à dire qu'on va désengorger les services d'urgence. Mais on peut quand même rendre service. Quand vous savez qu'un passage aux urgences coûte en moyenne 250 € et que parfois ce sont des choses qui peuvent être réglées en médecine de ville, à 25 € la consultation ou la téléconsultation, effectivement, je pense que nous pouvons également rendre service au service public.
Mais malgré tout, sur cette télémédecine, il y a une différence entre appeler son médecin traitant, un médecin qui vous connaît, et être en relation avec un soignant, on va dire, qui ne vous a jamais vu, qui ne vous a jamais rencontré.
Alors, je vais vous dire oui et non. Effectivement, c'est toujours mieux de voir un médecin que l'on a déjà vu, idéalement son médecin traitant, idéalement son médecin de famille. Ça, on est bien clair là-dessus. Nous sommes au tout début de l'histoire, comme Jacques Lucas l'a rappelé, ça a commencé qu'il y a quelques mois, on ne peut même pas tirer de bilan actuellement, juste faire un petit état des lieux éventuellement. Nous avons, là dans le mois passé, on a plus de 100 médecins qui nous ont contactés pour finalement utiliser notre solution. Donc on sent bien que si on se projette sur une échelle de quelques mois ou années, on va avoir de nombreux médecins qui vont être disponibles en téléconsultation. Donc pour vous, patiente, la chance de trouver un médecin que vous connaissez via CARE va être assez importante. Par ailleurs, il faut bien comprendre que déjà dans le modèle actuel présentiel, vous voyez régulièrement des médecins que vous ne connaissez pas. Si vous faites appel à SOS médecin, vous ne connaissez pas le médecin. Si vous allez aux urgences, vous ne connaissez pas le médecin.
Quand on va aux urgences, le médecin nous voit. Alors là, je vous coupe parce qu'il y a quand même une grosse différence.
En téléconsultation également, je vous vois.
Non, mais vous me voyez, vous me parlez.
Je vous parle.
Oui, mais je dois faire partir de la vieille génération, mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre aller aux urgences, rencontrer un médecin en tête-à-tête et le voir derrière son écran. Ça, je sais pas. Docteur Lucas, vous vouliez réagir à ce qu'on disait par rapport, j'imagine, aux clauses de remboursement et à l'intégration de ce modèle privé avec la cohabitation avec ce modèle public.
Oui, je veux parler en fait d'un autre acteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Quand vous allez consulter votre médecin, donc quand vous avez une téléconsultation, cet acte est remboursé par l'assurance maladie à hauteur de 65 ou 70%. Le reste à charge est pris en charge, bien évidemment, de la même façon lors des téléconsultations par les assureurs complémentaires ou les mutuelles. Mais les assureurs complémentaires et les mutuelles proposent également actuellement à leurs adhérents qui paie
une sorte de forfait,
une prime en fait, hein, pour être dans l'assurance, et leur propose un certain nombre de téléconsultations. Moi, j'ai une assurance complémentaire santé, eh bien j'ai reçu hier une proposition me disant que je peux me connecter avec une vidéo transmission sans augmentation de ma prime et sans que je ne sorte le moindre copec, si je puis m'exprimer ainsi, de ma poche, puisque c'est la mutuelle qui va le prendre en charge. Ça n'est pas l'assurance maladie obligatoire. On a donc un autre acteur
qui intervient des acteurs puissants et qui peuvent être d'ailleurs motivés pour la prise en charge de leurs adhérents, qui sont les assureurs complémentaires et les mutuelles. Et le Conseil national de l'Ordre des médecins a posé une question assez simple. Est-ce qu'il y a une double entrée dans le système de soins avec la télémédecine et avec la téléconsultation? Une entrée par l'assurance maladie dans le parcours de soins, on l'a évoqué tout à l'heure, et une autre entrée qui ne se situerait pas dans le parcours de soins, puisque ce serait une offre directe de l'assureur complémentaire ou de la mutuelle vis-à-vis de son adhérent. Et cette question-là fait que pour l'usager, il n'y a pas de dépenses supplémentaires, puisque dans les deux cas, elles sont prises en charge par l'assurance maladie. Il reste un autre sujet que le docteur Maisonneuve a évoqué brièvement. Ce sont les patients qui, dans certains territoires, et ils sont de plus en plus nombreux, n'ont pas de médecin traitant, parce que leur médecin traitant, il a pris sa retraite. Ou il est parti ailleurs. Moi, je suis confronté d'ailleurs personnellement à cette difficulté, non pas pour moi, mais quelqu'un de ma famille, qui va aller résider quelque part en France, je ne vais pas citer le département, et qui cherche un médecin traitant et qui n'en trouve pas. Donc c'est une situation qui est bien réelle. Que peut-on proposer à ces patients? Ce sont souvent d'ailleurs, pas toujours, mais des personnes âgées en milieu rural, enfin où là où la désertification médicale frappe le plus difficilement. Bien évidemment, la télémédecine ne va pas résoudre le problème des déserts médicaux, mais ça peut être une des solutions complémentaires pour apporter une solution. Et donc l'assurance maladie a indiqué, avec ce que l'on appelle les partenaires conventionnels, c'est-à-dire les organisations syndicales qui représentent les médecins, qu'il devrait y avoir une organisation territoriale. Tout ça est actuellement d'ailleurs en cours de négociation. Ça s'appelle des communautés professionnelles de territoire de santé. C'est en cours de négociation entre les syndicats médicaux et paramédicaux et l'assurance maladie, où la télémédecine peut être un moyen, non pas pour résoudre totalement, j'insiste bien là-dessus, c'est pas le numérique qui va résoudre tous les problèmes auxquels le système de santé est confronté, mais ça peut être un moyen supplémentaire.
Alors un autre regard sur cette télémédecine, si vous le voulez bien, c'est le vôtre. Docteur Jérôme Marty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Vous, on peut le dire, vous n'êtes pas vraiment convaincu par cette nouveauté.
Alors, si, on est convaincu que ce progrès est, à mon avis, un des plus importants que va connaître la médecine depuis que la médecine a connu depuis des années. Ça va changer la pratique du tout au tout, et il est probable qu'un très grand nombre d'actes se feront par télémédecine. Donc c'est un progrès, et il faut que tous les médecins puissent avoir accès à cette télémédecine et que tous les patients puissent avoir accès à cette télémédecine, puisqu'elle doit amener à la fois du confort pour le soin et elle doit améliorer l'accès aux soins.
J'attends le mai.
Voilà. Par rapport à ça, la problématique que l'on peut avoir, c'est effectivement les acteurs privés qui rentrent dans ce secteur-là, parce que nous l'avons vu et ils l'ont dit eux-mêmes, il y a 10 à 12% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, et donc le marché est très important. Et là où on voit bien que ce marché, il faut appeler les choses par leur nom, hein, les mots ont un sens, le marché est important, c'est que nous avons derrière tous ces acteurs des puissances financières qui sont les assurances pour la plupart ou des mutuelles. Et CARE, qui est présent sur votre plateau, AXA, qui le finance très largement. Et quand ils ne sont pas financés en amont par les assurances ou par les complémentaires, ils le sont en aval, puisque on voit certaines plateformes comme HelloCare ou Medavis qui, elles, se vendent en marche blanche à des entreprises ou à des mutuelles pour que ces mutuelles offrent ce service à leurs affiliés ou à des salariés d'entreprise. Et on est dans une espèce de monde orwellien où on va jusqu'à utiliser des arguments qui visent à dire que les entreprises vont augmenter leur portefeuille client, vont améliorer leurs chiffres parce que leurs salariés verront leurs patients directement sur leur écran et donc ne quitteront pas leur poste de travail. Donc on est dans une espèce de truc qui n'est plus de la médecine, mais qui est véritablement de la financiarisation. Alors on a un danger là-dedans. Le danger, il n'est pas aujourd'hui, mais il commence aujourd'hui. Il est demain, il arrivera demain, mais il commence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pu écrire « Le meilleur est à venir, mais le pire est à craindre ».
Vous craignez des dérives, c'est bien cela?
Ce que l'on veut dire par là, si vous voulez, c'est que ce qui fait la force de la médecine de France, c'est le maillage territorial, c'est la présence des médecins sur tout le territoire, et c'est une relation de confiance qui se renforce avec le temps, Parce qu'au sein du colloque singulier, qui est l'acte médical entre le médecin traitant et son patient, la confiance s'installe et se renforce au fil des ans quand vous avez votre patient en face de vous. Que vous l'ayez d'ailleurs en face de vous par écran ou que vous l'ayez en présentiel. Mais vous êtes son médecin traitant et il vous connaît. Quand on voit des plateformes qui s'installent et qui visent, et qui le disent, les 10 à 12% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, déjà on peut imaginer très largement qu'elles visent tout le territoire, mais que la porte d'entrée, c'est cette entrée-là. On voit bien qu'elles mettent en place des services où le médecin ne connaît pas le patient. Alors certes, on a pu dire que dans les soins médecins, on ne connaît pas non plus son patient, mais on est présent, on est là en présentiel. Et on efface un petit peu ce biais par sa présence. Quand on est derrière un écran, c'est plus difficile, on va dire. C'est plus difficile. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va enlever petit à petit cette spécificité du système de soins français qui était le maillage territorial et la présence des médecins, et que si on a une médecine qui s'installe par le biais des plateformes, qui fait croire à un mirage d'une médecine facile et facilitée, qui va prendre la plupart des actes simples, puisque c'est là-dessus qu'il joue, la plupart des actes simples, on va avoir non seulement un biais qui va être celui du renforcement de la non-installation, parce que dans certains endroits où ces plateformes pèseront véritablement sur le nombre d'actes qu'elles réaliseront, on voit bien que les cabinets seront déstabilisés sur le plan économique, et donc paradoxalement, là où on a un système qui prétend résoudre les déserts, il augmentera les déserts. Et puis la pression juridique étant ce qu'elle est, on le sait très bien, on est dans une espèce de dérive juridictionnelle qui fait que les gens ont tendance à responsabiliser, c'est normal, un peu plus le médecin, ils se couvriront sur les actes qu'ils ne peuvent pas résoudre ou ils ont un doute, en envoyant le patient consulté, et comme ils ne seront pas en capacité de trouver un médecin pour accueillir ce patient, ils l'enverront aux urgences, et on voit là qu'on aura une deuxième dérive qui va être celui du renforcement des patients vers les urgences et non pas de la résolution du problème.
Merci.
Ça, c'est les deux dérives. Et ensuite, je termine très rapidement. La troisième dérive, là on peut parler de Doctolib, qui est un système qui se met en place et dont on voit très bien qu'il devient sur la partie...
Pour nos auditeurs qui sont à l'étranger, j'explique. Hein, Doctolib, on va dire que c'est le plus grand secrétariat médical de France par la voie numérique et qui commence ce mois-ci d'ailleurs à proposer aux médecins affiliés la téléconsultation.
Voilà. Alors là, eux, ils restent sur le médecin traitant et c'est très bien. Mais il y a une dérive et un risque par rapport à Doctolib qui est celui du monopole. On voit bien que, par exemple, l'APHP, qui est quand même la plus grosse structure hospitalière de France, signe un monopole de consultation avec Doctolib. On a d'autres agents hospitaliers privés ou publics qui signent avec Doctolib. Ils sont en train de s'installer très favorisés par la sphère publique sur l'ensemble du territoire. Et le risque qu'il y a, c'est le rachat de cette entreprise par une puissance étrangère. Et je vous donne l'exemple, par exemple, si jamais demain elle était rachetée par une puissance américaine, financière, à ce moment-là, ce qui protège les données françaises, qui est le RGPD, tomberait pour faire face au Cloud Act, qui est ce qui protège les données en Amérique, mais qui fait qu'une entreprise américaine aujourd'hui est obligée de livrer ses data au gouvernement américain, et on voit bien que les data françaises échapperaient à la France, ce qui est un véritable risque. Donc pas de monopole, il faut y faire très attention, et il faut vraiment border l'arrivée de ces plateformes et l'arrivée du système assurantiel dans le système de soins français qui risque de biaiser complètement la relation qu'il y a entre patient et malade.
Beaucoup de questions que vous soulevez. Merci beaucoup, docteur Jérôme Martin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. On retrouve nos trois invités en studio. Bien évidemment, ces questions qui vont susciter des réactions. Docteur Claude Bronner, on a un petit peu l'impression, avec ce qu'on vient de dire, que les pouvoirs publics, face à un certain nombre de nouveautés technologiques qu'implique notamment cette télémédecine, agissent au fur et à mesure que les choses arrivent. Après, on analyse, après, on légifère, après, on pose des bornes. Est-ce que vous avez aussi cette impression?
L'impression que les pouvoirs publics ne savent pas vraiment où ils vont,
oui.
C'est exactement ça.
Voilà.
Et le docteur Marty a résumé à peu près les craintes des médecins. Je crois qu'on est réellement à un tournant.
Avec Doctolib, cette fameuse arrivée de Doctolib, on va dire que c'est vraiment un géant, hein, c'est vraiment quelque chose d'énorme.
C'est un géant qui essaye effectivement de prendre place pour organiser les relations entre les médecins et les patients. Et bien sûr, les médecins apprécient le service en lui-même, mais ils ont raison d'avoir peur parce que nous n'avons pas envie du tout. Nous n'avons pas envie du tout d'être à la botte de quelques organisations pour notre travail et nos patients n'y ont probablement pas intérêt. Alors, le fond du problème, c'est quoi? C'est que, d'une part, on a choisi une médecine où, quand même, le patient, logiquement, doit avoir un médecin traitant, doit avoir un médecin de proximité qui gère globalement son dossier. Alors, quand il y a beaucoup de patients, pas assez de médecins, il est clair que le médecin traitant ne peut pas tout faire et qu'il lui faut des systèmes pour le suppléer. La télémédecine peut servir à ça. Mais quand le patient a vraiment besoin d'aller voir un médecin physiquement, ou c'est pareil pour les spécialistes, d'aller voir un spécialiste physiquement, il faut bien sûr qu'il le trouve. Et il faut pas qu'il le trouve par hasard parce que un annuaire le lui propose. Et donc, pour ça, il faut que les professionnels s'organisent pour répondre. En clair, que peut-on faire? On peut tout simplement s'organiser territorialement pour dire, un, tous les patients ont besoin d'avoir un médecin traitant. Ça veut dire aussi qu'il faut que les pouvoirs publics mettent les moyens pour que là où ça pêche, ça s'améliore. Du personnel pour les médecins, pour qu'ils puissent faire plus de consultations sans travailler plus en termes horaires, des moyens de connexion effectivement pour faire des visios avec les patients. Bref, il faut vraiment qu'on s'organise sur les territoires. Et ça, on est, le docteur Lucas l'a rappelé, on est en négociation actuellement avec l'assurance maladie et avec des pouvoirs publics qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas l'air d'avoir vraiment pris l'ampleur du problème, l'ampleur des moyens qu'il faut mettre rapidement. Donc il faut qu'on s'organise territorialement et ça, c'est la tâche des professionnels de santé. C'est vraiment avec ça qu'on avancera.
Docteur Jacques Lucas, est-ce que vous avez aussi cette impression un petit peu qu'on navigue à vue ou pas ?
Non, on ne peut pas dire, je crois, que les pouvoirs publics naviguent à vue, car on ne peut pas à la fois plaider pour et son contraire. Jusqu'à présent, la télémédecine était encadrée par un décret datant de 2010 qui faisait que pour les médecins libéraux, en tout cas, c'était le parcours du combattant pour faire de la télémédecine et pour avoir les moyens financiers pour le réaliser. Ces moyens financiers étaient pris dans un fonds d'intervention régional et l'Agence régionale de santé devait intervenir. Ce décret a été supprimé. Pour cette partie très très complexe, afin que la télémédecine rentre dans le droit commun. Et l'ordre a salué ce premier pas. Et la meilleure façon de marcher, comme dit la comptine pour les enfants, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Et j'entends mes confrères, et en particulier les organisations syndicales, de dire que il faut laisser, que Claude Bronner vient d'ailleurs de rappeler, il faut laisser les professionnels de santé, les médecins, s'organiser entre eux dans la proximité afin que l'accès aux soins soit possible pour tous les patients. Encore faut-il qu'ils aient la volonté de s'organiser. C'est-à-dire que l'inertie sur le sujet dont nous parlons n'est pas une façon de s'organiser. Et que à ce moment-là, la puissance publique interviendra nécessairement. Donc je ne crois pas que la puissance publique ne sache pas actuellement où elle va. Elle fait confiance apparemment du moins aux acteurs avec les négociations qui se sont ouvertes. Et puis on verra bien.
Je vous interromps juste quand même pour me tourner vers le docteur Alexandre Maisonneuve. On parlait d'acteurs, on va pas dire, mais cette arrivée de Doctolib quand même, ça change la donne d'avoir un géant pareil qui peut complètement bouleverser l'offre, bouleverser, on va dire, le rapport de force.
Alors moi je ne souhaite pas trop parler de Doctolib
non, mais on parle
en leur
en
absence.
Tant que marque, on ne parle pas en tant que marque. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce sujet allait prendre une telle place dans le débat. Mais simplement concrètement, aujourd'hui, quand on veut prendre rendez-vous, quand on appelle n'importe quel de son praticien, y compris parfois même son médecin traitant, on est renvoyé, même y compris par le secrétariat, vers Doctolib. C'est une réalité.
Mais je pense qu'il faut bien, réaliser quelque chose. Et vous l'aviez évoqué d'ailleurs en introduction également. Il y a deux temps qui sont différents. Il y a le temps de l'innovation qui est rapide. Et il y a le temps de l'appropriation qui est un temps lent. Effectivement, nous faisons partie des acteurs plutôt connus, nous faisons partie des acteurs plutôt rapides avec Doctolib. Pour nous, même travaillant pour CARE et cofondé CARE, je trouve que le travail de Doctolib est plutôt un très bon travail. Je trouve que l'arrivée de Doctolib est plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour les patients, pour les médecins et même pour nous. On peut considérer éventuellement qu'on est concurrent. Moi, je ne me considère pas d'ailleurs comme concurrent de Doctolib. On est sur des activités qui sont microscopiques actuellement. actuellement. Donc ce serait complètement idiot de parler de concurrence à ce niveau-là. Je pense que toutes ces annonces, toutes ces nouvelles sont des bonnes nouvelles. Effectivement, il va falloir que les choses s'affinent au fil de temps. Il va falloir respecter la pratique médicale soignante. C'est ce que nous faisons depuis le début. Il va falloir respecter les parcours de soins. C'est ce que nous faisons depuis le début. Il va falloir aussi que la réglementation évolue. Parce que, et je voudrais revenir sur un point essentiel que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous me disiez, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas en téléconsultation. Je vous vois, je vous entends, je vous parle, je vous écris. Effectivement, ce que vous soulevez par là, c'est pas quelque chose qui est tout bien ou tout mal. C'est où sont les limites finalement de cette pratique. Et les limites, on les connaît, elles vont s'affiner au fil du temps. On les a fait évaluer, nous, avec les différents médecins spécialistes, et on arrive, en gros, à peu près 20% de l'activité de consultation qui serait réalisable en téléconsultation. Donc, c'est une minorité, mais c'est une part importante quand même. Et ce qu'il faut, dernier point, souligner, c'est ce que fait d'ailleurs le docteur Claude Brunner, c'est l'accompagnement des praticiens à cette pratique, et notamment leur formation. Parce qu'ils sont effectivement dubitatifs d'emblée, mais quand on leur explique exactement ce qu'on fait sur le plan technique, ils arrivent à voir à quel moment ils vont pouvoir incorporer leur pratique médicale à cette nouvelle modalité des exercice.
En tout cas, on entend bien beaucoup de questions posées, beaucoup de questions notamment sur les limites, sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et on va voir que loin de France, eh bien, cette technologie de l'information au service de la médecine, c'est déjà une réalité. C'est ce qu'on va voir en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, docteur Franck Mansour Adeoti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, coordinateur général du Master international sur la santé numérique en Afrique. On entend en France ces craintes, ces interrogations. Est-ce qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, eh bien, ces craintes, elles sont dépassées déjà depuis longtemps?
Je dirais non, parce que l'Afrique est un terreau au moment de l'expérimentation de ces nouvelles technologies, et parce que nous avons des besoins énormes, contrairement à l'Europe où le plateau technique est développé, les ressources humaines, en guillemets, sont quand même suffisamment disponibles. Nous avons d'énormes déserts médicaux en Afrique, nous avons des populations qui sont très éloignées des premiers centres de santé. Donc la télémédecine, la téléconsultation, la télé-expertise, toutes ces nouvelles technologies-là sont des moyens pour rapprocher les soins de qualité de nos populations.
Rapprocher des soins et non pas remplacer des services qui n'existent pas, on va le dire carrément. Donc cet atout numérique, docteur Franck Mansour Adeoti, on peut dire, il est vraiment indéniable. Là, il n'y a pas de doute. Une téléconsultation, quand il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de débat, on prend.
Ah, bien sûr, bien sûr. Puisque c'est une nécessité. En fait, à milieu d'Abidjan, avoir une problématique très précise, je dirais par exemple l'exemple de télé-CG ou de télé-échographie, l'opérateur de terrain, une agence de santé, prend la data et l'envoie à un centre spécialisé à Abidjan qui donne un avis motivé avec une prescription qui permet une meilleure prise en charge de la patiente. On gagne en temps, on gagne en dépenses de dépassement et surtout en efficacité de prise en charge du patient.
Y compris pour servir d'intermédiaire dans des centres de santé où il n'y a pas à proprement parler de médecin. Et là, ça va être un agent de santé local, une infirmière, qui va pouvoir rentrer en contact avec un médecin hospitalier, par exemple.
Exactement. En fait, c'est ça le cas. C'est la réalité de nos terrains. Parce qu'on n'a pas assez de médecins ni assez de spécialistes pour couvrir l'ensemble de nos territoires en Afrique. Et particulièrement en Côte d'Ivoire. Par contre, l'État a fait des efforts pour avoir des infirmiers, des sages-femmes, des agents communautaires sur lesquels on peut se reposer pour certains types de pratiques et pour lesquels les TIC, les technologies du numérique, constituent des vecteurs de circulation d'informations, de mise à niveau et de prise en charge plus appropriée, plus adaptée de certaines pathologies.
Le docteur Claude Brunner veut intervenir dans notre échange.
Oui, je voulais donner un autre exemple du même type. La plateforme technique avec laquelle je travaille, Télémédica, fait par exemple du suivi de femmes enceintes à Ndiarem, près de Dakar. Et quand je dis suivi de femmes enceintes, ça permet de le faire, y compris avec l'échographie. Et ça, c'est pour souligner un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé. Il y a certes les cabines où le patient se met dans la cabine et puis il n'y a personne à côté. Mais en fait, la téléconsultation élaborée, elle se fait avec
un intermédiaire soignant
sur place, avec éventuellement un système, ça peut être un chariot, ça peut être une mallette, qui permet de faire beaucoup d'examens, et ça se fait par exemple à Dakar avec une maternité et des femmes qui sont nettement plus éloignées, avec des sages-femmes, voire des infirmières qui ont été formées à ça. Et évidemment, ce qu'on fait à Dakar, on peut le faire en France aussi, et on commence avec des pharmacies, avec des mairies qui installent des salles de consultation. Il y a toute une série de solutions comme ça qui vont au-delà du simple smartphone qui permet aux médecins de bien travailler, mais il y a des solutions qui vont se développer et qui vont permettre de répondre à des besoins spécifiques là où il n'y a pas de professionnel de santé, en tout cas pas de médecin, et avec une infirmière, on peut faire du bon travail.
Docteur Franck Mansour Adeoti, sur ce point précis de la télémédecine, est-ce que vous avez l'impression que le Nord peut s'inspirer de vos applications concrètes au Sud ?
Oui, comme je le disais il n'y a pas longtemps, si l'Afrique a raté la révolution industrielle, on ne doit pas rater la révolution technologique. Et avec le taux de pénétration de nos populations en matière de TIC et l'engouement des jeunes start-up pour proposer des solutions pour mieux prendre en charge nos malades, l'Afrique est vraiment en passe d'être vraiment moteur dans ces innovations technologiques.
Avec peut-être une limite, docteur Mansour Andéoti, c'est peut-être les équipements et les connexions qui peuvent, dans certaines régions, laisser à désirer.
Oui, bien sûr. Comme on le dit, les outils sont les véhicules, mais il y a tout l'autoroute qu'il faut construire, c'est-à-dire tout le réseau de fibres optiques, tout le maillage, en termes de collectivité de l'ensemble du territoire. Je crois, mais c'est quand même des efforts qui sont faits dans la plupart des pays pour arriver à ce niveau de performance. Et même si on ne peut pas avoir de grandes bandes passantes, mais avec bien le mobile déjà, on peut faire beaucoup de choses. On peut prendre des images d'une ulcération cutanée, un pied ou bien, une ulcère du urélie, et l'envoyer à un centre de dermatologie à Abidjan pour avoir un avis motivé et faire une proposition de traitement. Oui.
Vous parlez justement de cette spécialité de la dermatologie, docteur Franck Mansour Adeoti. Est-ce qu'il y a justement des disciplines, des spécialités qui sont particulièrement pertinentes pour ce genre de transmission, ou c'est pour l'ensemble de la médecine?
En fait, vous savez, les TIC, de mon point de vue, s'appliquent à tout le circuit de prise en charge du malade, y compris les activités intramuros dans l'hôpital. Là, on parle surtout des e-santé, avec le circuit du patient informatisé, le dossier médical, et j'en passe. Et vous avez l'autre aspect qui est vraiment la télémédecine, la téléconsultation et la télé-expertise dont on a parlé tantôt, qui sont d'autres éléments. Mais le plus important, c'est de savoir que dans nos pays, la demande est telle que les solutions proposées sont adaptées à nos réalités dans la mesure où la demande d'offre de soins est là, les professionnels essaient quand même d'assurer des maillages du territoire, et avec la connectivité, on peut les mettre en relation avec des experts qui, eux, peuvent, parce qu'ils ne sont pas nombreux et ne peuvent pas être dans toutes les régions du pays, apporter grâce aux technologies du numérique leur avis motivé sur certaines situations pathologiques.
Alors c'est autour
et ça permet vraiment ça permet de gagner en temps et en efficacité, et ça réduit les charges financières pour la population.
Docteur Alexandre Maison, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais confirmer ces propos. Effectivement, la dermatologie peut apparaître comme la spécialité idéale de par son côté pictural, mais il faut bien comprendre que toutes les spécialités sont concernées. Quand on discute avec que des cardiologues, que des pneumologues, que des neurologues, et qu'on les laisse surtout discuter entre eux des avantages et des limites de la téléconsultation, on se rend bien compte que chaque spécialité est impactée, que dans chaque spécialité, les motifs de recours, les patients concernés vont pouvoir être différents, que même en fonction de chaque médecin, la pratique va être un petit peu différente, mais comme la pratique présentielle est également différente entre chaque médecin, mais il n'y a pas de spécialité qui serait incluse et d'autres qui seraient exclues. Et même au-delà des spécialités médicales, je suis convaincu, et nous le faisons depuis 2016, début 2017, que toutes les professions de santé, tous les professionnels de santé sont concernés.
Merci beaucoup pour votre éclairage à Abidjan, docteur Franck Mansour Adeoti, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Docteur Jacques Lucas, je voulais, voyais réagir, vous voulez aussi apporter votre pierre à ce débat sur justement les connexions au Sud qui sont en plein développement avec énormément d'initiatives.
Oui, bien sûr, on voit bien tout ce que la télémédecine peut apporter, l'expérience d'Abidjan ou celle de Dakar, celle qui existe également dans le Maghreb, enfin, il y en a beaucoup. Ce qui nous, en France, finalement, ne nous paralyse pas, mais qui vient altérer un petit peu la rigueur du débat sur la télémédecine elle-même, c'est le modèle de protection sociale. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'intervention de Jérôme Marty, c'est le modèle de protection sociale. Nous avons un excellent modèle de protection sociale qui repose sur la solidarité. On voit bien que les assureurs complémentaires et les mutuelles qui sont solidaires aussi, mais c'est pas solidaire pour l'ensemble de la population. Et ce que Jérôme Marty a souligné, c'est bien en fait cela. L'ordre des médecins indique bien que l'État ne peut pas se désintéresser de la régulation de ces offres que l'on a appelées, nous, des offres d'ubérisation du système de soins. Mais c'est un sujet que celui de la protection sociale, l'autre sujet est celui de la télémédecine. Ce qui me permet peut-être de faire une petite mise au point au sujet de Doctolib. Si Doctolib remporte du succès, c'est bien parce que les citoyens ont l'habitude de prendre leur rendez-vous partout par les moyens numériques et pourquoi pas les rendez-vous médicaux. Et que par ailleurs, un grand nombre de médecins se sont abonnés à, alors on dit maintenant Doctolib, mais Doctolib n'est pas le seul, même si l'a absorbé son concurrent direct qui était mon docteur. Doctolib ne fait pas de téléconsultation.
Pour l'instant, non.
Il n'en fera pas.
Il fera intermédiaire.
Comme quand vous prenez un rendez-vous, allô, je voudrais un rendez-vous de consultation, Doctolib dit,
Il restera en interface.
Ça va être un interface et il met à disposition, moyennant d'ailleurs rétribution, une plateforme sécurisée pour le faire. Donc, c'est un intermédiaire. Et je rejoindrai ce qu'a dit Claude Brunner. Si les médecins et les autres professionnels de santé ne s'organisent pas eux-mêmes avec des moyens numériques et des prestataires extérieurs, eh bien, si je puis dire, ils seront organisés. On ne peut pas laisser les Français sans couverture, y compris couverture numérique, pour faire face aux défis auxquels est confronté le système de santé.
Et ce sera le mot de la fin, docteur Claude Brunner. Je voulais juste vous interroger, il ne nous reste même pas une minute, sur la formation. Est-ce que justement, on disait, ça se met en place, il faut que les choses s'organisent. Est-ce que le maillon essentiel, ce n'est pas justement de former les praticiens?
Je ne dirais même pas former, je dirais simplement les mettre en contact, ça s'appelle formation, mais c'est tout simplement montrer comment ça peut marcher, les outils, ils les connaissent, ils savent les utiliser, et c'est effectivement, c'est la clé d'un déploiement rapide, et je suis convaincu qu'il sera rapide.
Docteur Alexandre Maisonneuve, le petit mot de la fin.
C'est le point essentiel, la formation que l'on a identifiée depuis le début. Et nous proposons une formation en e-learning qui s'appelle la Care Academy, effectivement, qui accompagne les praticiens jusqu'à la réalisation de la téléconsultation.
Mais on imagine que les médecins aussi, entre eux, ont prévu des choses pour se former. Vous faites tous la même chose. Bah, merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Finalement, vous êtes tous médecins, c'est un petit peu l'essentiel. Ce débat consacré à la télémédecine dans Priorité Santé. Merci à vous, docteur Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins. À vous, docteur Claude Brunner, président de l'Union généraliste, vice-président de la Fédération des médecins de France. Et docteur Alexandre Maisonneuve, cofondateur, directeur médical de CARE.
Merci.
Et notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, on parlera de la médecine thermale, ses indications, ses bienfaits et vos questions, toujours à notre numéro 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.